Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique et qui vous raconte la blockchain, les crypto-monnaies et les plateformes décentralisées. Avec moi aujourd'hui, donc moi c'est Sébastien Arbogast, et avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le grand Lionel Dricot alias Plume. Bonjour Plume, comment ça va ?
Salut Seb, ça va et toi ?
Ça va très très bien, écoute, pour un premier lancement, on est parti. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je propose, c'est que on vous explique un petit peu d'où vient ce podcast et pourquoi il est là. Et puis après, on va rentrer dans l'actualité et on va vous expliquer tout ça. Donc, le podcast Proof of Cast, ça vient d'où ? Ben concrètement, donc moi je fais partie de, j'ai lancé avec Saïd El Oudriri qui interviendra aussi dans les prochains épisodes l'initiative Chain Skills il y a 2 ans. Le but était dès le départ de diffuser au maximum la bonne nouvelle concernant la blockchain, les crypto-monnaies et tout ça. Et la première étape, c'était la création du blog sur chainskills.com pour diffuser un petit peu notre parcours d'apprentissage. Et puis ensuite, on a lancé en septembre 2017 le cours en ligne sur Udemy. Et la troisième étape, finalement, c'est un peu ce podcast où l'objectif, ça va être aussi de diffuser l'actualité et aussi d'expliquer un petit peu la blockchain. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Et voilà, et j'ai proposé à Plume de me rejoindre, lui qui fait un PhD, hein, c'est ça, à l'UCL.
Oui, tout à fait. Donc je suis dans la... Je suis le projet Bitcoin depuis 2010, et donc j'étais un des premiers blogueurs francophones à parler du projet Bitcoin, qui était un truc complètement ésotérique à l'époque. Et depuis, mon intérêt n'a fait que croître pour cette technologie, pour tous les potentiels, et j'ai la chance maintenant de pouvoir m'y consacrer à temps plein, parce que je fais de la recherche sur les applications du vote électronique et de la démocratie sur la blockchain.
Intéressant. Donc effectivement, on va être amené à parler de tous ces sujets-là dans le podcast. Alors, très rapidement, quel est l'objectif, quels sont les objectifs même de ce podcast ? Le premier, c'est d'éduquer, donc d'expliquer un petit peu c'est quoi la blockchain, quelles sont ses applications, et alors de vulgariser au maximum pour que un maximum de gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Ça, c'est très important. Donc au passage, si quand vous écoutez ce podcast, il y a des choses qui sont pas très claires, des sujets sur lesquels on passe un petit peu trop vite, n'hésitez pas à nous le signaler. Et on corrigera le tir, et vraiment l'objectif, c'est qu'un maximum de gens puissent comprendre ce dont on parle. Le deuxième objectif, c'est d'influencer, parce que on va pas se contenter de passer en revue l'actualité, on va aussi y mettre notre grain de sel, rajouter notre opinion par-dessus tout ça. Et pourquoi ? Parce que on a, pour nous, c'est pas une technologie qui est neutre, elle a un intérêt sociétal, philosophique, politique, voire idéologique. Et toutes ces idées-là, on va les amener aussi dans le podcast. Donc ne vous attendez pas à ce que ce soit complètement objectif et neutre. C'est absolument pas le but de ce podcast. Et la troisième mission, c'est vraiment de promouvoir toutes les activités. Alors bien sûr, des personnes qui participent activement à ce podcast, mais aussi de toutes les activités que vous pourriez nous faire, que vous pourriez nous communiquer, que vous voudriez pouvoir promouvoir, et les activités de la communauté blockchain en général, les conférences, les événements, etc., qui peuvent vous permettre d'en apprendre plus. Donc voilà, éduquer, influencer, promouvoir, ça va vraiment être les trois missions du podcast, et ce qui va diriger un petit peu tout ce qu'on fait. Alors, très important aussi le format. Donc l'idée de ce podcast, c'est qu'on va commencer avec un épisode toutes les 2 semaines. La diffusion se fera le dimanche soir, donc pour que vous l'ayez tous le lundi matin pour l'écouter dans votre trajet vers le bureau. Et en général, on sera 2 ou 3. Là aujourd'hui, on est 2, mais voilà, il sera pas impossible qu'on reçoive aussi d'autres chroniqueurs au fur et à mesure des épisodes. Et en général, on essaiera de faire en sorte que ça dure entre 30 minutes et 45 minutes, maximum 1 heure, vraiment pour que ça reste digeste et compréhensible. Mais donc voilà, ce sera à peu près ça. Mais ça, donc la publication se fera vraiment tous les dimanches soirs pour le lundi matin. Et en général, on commencera aussi par soit un édito, soit une réponse à vos questions. Donc là aussi, si vous avez des questions concernant la blockchain, les crypto-monnaies, les plateformes décentralisées et que vous voulez quelques clarifications, vous aurez plein de moyens de nous envoyer vos questions. Alors ça se fera déjà par le blog, ce que vous retrouverez sur proofofcast.com ou sur Chainskills. Les articles seront publiés sur Chainskills. Vous aurez d'ailleurs la possibilité de laisser des commentaires sur chaque article, puisque chaque épisode sera accompagné d'un article avec d'ailleurs toutes les sources des articles et des actualités qu'on va évoquer. Et puis il y a aussi bien sûr le compte Twitter Proof of Cast, la page Facebook Proof of Cast, tout pareil. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à laisser des reviews et des commentaires sur iTunes et sur tous les autres répertoires de podcasts qui peuvent exister. Donc voilà, n'hésitez pas encore. C'est un podcast, donc c'est fait pour être interactif. Donc on attend vos retours, on attend vos questions et vos remarques pour s'améliorer en permanence. Je pense que j'ai fait le tour. D'autres remarques génériques, Plume, par rapport au podcast dans son ensemble?
Non, mais voilà, maintenant on va attendre les retours.
Voilà, donc on attend vos retours. C'est bon. Non, on plaisante. Donc, la prochaine étape, je vais laisser la parole du coup à Plume, puisqu'on n'a pas encore de questions des auditeurs, évidemment. Donc je vais laisser la parole à Plume qui va nous faire son petit édito de l'épisode 1.
Ouais, tout à fait. Et on va attaquer en force parce que, bon, voilà, on commence Proof of Cast, mais c'est Bitcoin, Blockchain, Ethereum, tous ces thèmes barbares. Mais en gros, qu'est-ce que c'est que tout ça? On n'y comprend rien. Tout ce qu'on sait, c'est que depuis qu'il s'est mis à miner des crypto-monnaies avec sa PlayStation, votre petit cousin Kevin de 8 ans roule en Tesla plaqué Iridium, possède 10% de Facebook, envoie des smileys à Richard Branson sur Snapchat et a racheté la dette de l'Angola. Bref, les crypto-monnaies, ou les cryptos tout court, comme disent les non-cryptographes, au grand désespoir des cryptographes professionnels, c'est vraiment beaucoup d'argent. Mais pourquoi? D'où pleuvent ces milliards que même un parti socialiste n'arriverait pas à dépenser? Serait-ce une pyramide de pizza, comme le prétendent les médias traditionnels pour qui un informaticien n'est penché sur son clavier avec une cagoule du GIGN? Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on prend la peine d'y réfléchir, l'argent, ça s'échange toujours contre un bien ou un service, contre une valeur. C'est pas l'argent qui est la valeur, c'est l'argent qui s'échange contre de la valeur. Or, du coup, il y a que trois manières de gagner de l'argent. La première, toute simple, c'est de fournir la valeur avec son corps. Que ce soit avec vos pieds, votre sexe ou votre cerveau, ça change rien. C'est ce qu'on appelle la prostitution ou la consultance, le contrat de travail, c'est pareil. Ce sont des synonymes. C'est d'ailleurs assez amusant de voir que selon la partie du corps, on considère pas ça de la même façon. Donc si on dédie son cerveau à un truc complètement stupide, voire vraiment négatif pendant 8 heures par jour, c'est normal. Si on dédie son sexe pendant une heure pour faire plaisir à quelqu'un contre de l'argent, ça c'est vraiment amoral, c'est scandaleux. Et si on dédie son pied pour foutre un ballon au fond des filets, on peut gagner des millions et on est une star. Voilà. Mais bref, je m'égare. La deuxième manière de gagner de l'argent, c'est la spéculation. Au lieu de fournir mon cerveau, mon cul ou mon pied, je vais juste acheter quelque chose avec l'espoir de le revendre plus cher par après. Je vais dealer de la drogue, je vais acheter des biscuits, je m'appelle Deleuze, ou je vais faire des stocks. Quoi que ce soit, je vais acheter pour essayer de revendre plus tard, je vais acheter des actions, je vais spéculer. Et la troisième manière de gagner de l'argent, c'est acheter quelque chose qui n'a pas de valeur, mais en espérant qu'il y ait des pigeons pour le racheter plus cher. C'est ça qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Exemple typique, c'est un diplôme universitaire, par exemple. Vous avez payé bien cher pour faire 5 ans d'efforts afin d'obtenir un bout de papier. Alors ça, si c'est pas une arnaque totale, je sais pas ce que c'est. Mais pourquoi vous le faites? Tout simplement parce que vous dites qu'il y a encore d'autres pigeons qui, parce que vous avez ce bout de papier, vont vous donner plus d'argent que si vous ne l'aviez pas. Donc c'est la définition même d'une pyramide de Ponzi. C'est aussi le système bancaire, mais je m'égare. Pour résumer, l'argent, ça vient de la prostitution, de la spéculation ou d'une pyramide de Ponzi. Du coup, on entend forcément que Bitcoin, c'est Ponzi, ça tue les bébés phoques, ça fait fondre la banquise, ça fait construire des usines avec des milliers de petits chinois qui pédalent dans des caves mal aérées pour faire du mining, et ça permet le trafic de drogue entre tous les pédophiles nazis du méchant internet. Bref, tout ça serait sans doute vrai si effectivement les crypto-monnaies n'avaient aucune valeur et qu'ils n'étaient qu'une gigantesque pyramide de Ponzi. Mais, et s'ils avaient de la valeur? Et si les crypto-monnaies avaient de la valeur? Mais une valeur de quoi? Alors là, c'est là que ça devient intéressant, hein. Il y a un problème qu'on appelle le problème des généraux byzantins. Alors imaginez des généraux qui assiègent une ville et ils sont chacun dans leur tente, et comme ils sont byzantins, ils peuvent pas bouger, ils sont dans leur fauteuil, ils ne communiquent que par messager interposé, et ils se rendent bien compte que pour prendre la ville, ils doivent faire une attaque coordonnée. Il faut qu'au moins la majorité d'entre eux attaquent en même temps de tous les côtés de la ville, parce que s'ils vont chacun de leur côté, ils vont se faire descendre. Et ils doivent donc se synchroniser, se mettre d'accord sur l'heure de cette attaque, sinon ils ne prendront jamais la ville. Alors c'est déjà pas évident en soi, mais si on rajoute des généraux qui sont des traîtres et qui vont essayer de faire capoter le tout en envoyant des faux messages, ça paraît limite impossible. C'est un problème qui a été théorisé en 1982 par l'empereur Shostak et Pise, et ça reste un problème fondamental, à la fois technologique, mais également social, sociétal. Comment faire émerger un consensus lorsque chaque individu a le même pouvoir que les autres? Imaginez la scène, vous êtes avec 5 amis en rue, il pleut et vous devez choisir un restaurant. Et si on allait au chinois? Oh non, j'ai déjà été hier. Et une pizza? Je suis allergique à la tomate. Et vous rajoutez un vegan dans le tas et c'est la fin des haricots. Tout le monde crève de faim. Bref, au cours de l'histoire de l'humanité, une seule solution s'est toujours imposée pour faire émerger un consensus, se ranger derrière l'avis d'un chef. Que celui-ci soit celui qui crie le plus fort, allez bon, on s'en fout, on va bouffer une pizza. Que celui-ci soit celui qui tape le plus fort, là ça arrive rarement quand même quand on va au resto avec des copains. Celui qui colle le plus d'affiches, qui a le plus beau sourire, qui serre le plus de mains, qui est le plus diplomate. Ça ne change rien, c'est toujours finalement un chef. Et même les chefs entre eux, ben, quand ils sont entre eux, ils élisent le chef des chefs. Alors, bien sûr, on a tous des mécanismes, la concertation, le vote et les élections, tout ce genre de trucs pour avoir l'impression qu'on ne se fait pas trop avoir. On a l'impression que le chef est légitime. Avant, la légitimité du chef, c'était parce que c'était Dieu qui l'avait choisi, parce que c'était le fils d'un tel, parce qu'il avait gagné un combat singulier avec un autre. Maintenant, on dit il s'est fait élire ou il écoute ce qu'on dit, mais c'est pareil, c'est un chef qui prend sa décision. C'est comme tout comme dans votre boulot, si vous nous écoutez en allant au travail, ben, votre chef, soit il prend les décisions et il n'a rien à foutre de ce que vous dites, soit il fait semblant d'écouter. Et quand même il prend ses décisions. Mais il y a du progrès parce que de plus en plus ils font semblant d'écouter. Avant c'était pas le cas. Mais je m'égare. Bref, le truc c'est que pour faire émerger un consensus, c'est généralement uniquement possible finalement avec un pouvoir centralisé qui va même prendre tous les avis, mais qui va prendre une décision finale pour, au nom du groupe. Or, quand il a créé Bitcoin, Satoshi Nakamoto s'est vite rendu compte que pour faire une dépense en Bitcoin, pour qu'elle soit valide, il faut que tout le monde l'accepte. Il faut que tout le monde soit d'accord que l'argent était transféré d'un compte vers un autre. Il faut un consensus. Alors lui, il n'a pas trop réfléchi au truc. Il avait bricolé vite fait sur un coin de table un truc qu'on a appelé plus tard blockchain et qui résolvait le fameux problème des généraux byzantins. Donc il l'a fait comme ça, c'est un peu trop... un peu comme ça. Et il y a un petit gars de 19 ans, lui, qui dans les pays de l'Est, il aimait pas boire de la vodka ni jouer au foot avec des rasoirs à la place des crampons comme tous les gars de son âge. Du coup, il s'est dit, mais tiens, ce serait quand même marrant si on utilisait ce consensus pour faire d'autres trucs que juste payer. Et il a donc fondé Ethereum. Donc, le truc de fou, c'est que la blockchain, ou les blockchains qu'on connaît, offre une fondation pour obtenir un consensus sans autorité, sans centralisation. Une réelle manière d'obtenir à des décisions décentralisées. C'est un truc de dingue. On n'a jamais vu ça. Désormais, on pourra choisir un resto entre potes entre quelques secondes au lieu de crever la dalle sous la pluie. Si ça, c'est pas un progrès technologique, je sais pas ce qu'il vous faut. Alors... est-ce qu'un système pour permettre à des généraux byzantins de se mettre d'accord sur leur duté a de la valeur? Intuitivement, j'avoue, c'est pas clair. Un peu comme le fait de connecter des ordinateurs, ces grosses machines à calculer peu pratiques, pour échanger des messages. Dans les années 80, c'était pas clair la valeur. C'est rigolo, mais ça n'avait pas de valeur. Ou alors c'est cette petite société qui a été fondée en 94, en 94, s'il y a des auditeurs français qui nous écoutent, qui permettait aux gens d'acheter des livres justement sur cette connexion d'ordinateur qu'on appelait Internet, qui était confidentielle. Est-ce que ça a de la valeur? Pas tellement, la preuve c'est qu'en 2000 tout ça s'est cassé la gueule et que la société a failli faire faillite. Bon, elle s'est un peu reprise depuis. Hein.
Oui, c'est ça, Amazon s'en sort bien maintenant.
Bref, est-ce que les crypto-monnaies ont de la valeur? Mais pas toutes certainement, hein. comme la bulle 2000 avec toutes l'écrémage de toutes les sociétés, la bulle.com, toutes l'écrémage des sociétés internet. Mais le concept en soi est révolutionnaire et clairement, on peut pas imaginer tout ce qu'on pourra faire avec ce consensus décentralisé. Et donc d'ici 10 ans, il est clair que certaines crypto-monnaies, certaines blockchains auront 10, 100, 1000 fois, 10 000 fois plus de valeur que ce qu'elles ont aujourd'hui. Alors, maintenant, il nous reste qu'à savoir laquelle, sur laquelle on va mettre notre argent. Mais ça, ouais, je vous laisse décider tout seul.
Voilà. Bah, quelle magnifique introduction au sujet de ce podcast, je trouve. Ça illustre bien effectivement le fait que les blockchains, ça n'est pas que la crypto-monnaie. Et ça va être aussi l'objectif d'une la deuxième partie de ces épisodes. Ça va être de couvrir un petit peu l'actualité et de raconter les dernières news et les derniers événements marquants de cette communauté. Alors, je précise au passage qu'évidemment, ça n'est que notre revue de presse qu'on a filtré, qu'on a trié, parce qu'on peut pas parler de tout ce qui se passe. Il y a des événements plus ou moins importants, et nous on garde un petit peu la substantifique moelle de tout ça pour rester dans un format tenable, parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures. Et évidemment, comme je le disais, on va rajouter notre grain de sel dans tout ça. Donc voilà, on est parti pour la deuxième partie, c'est-à-dire la couverture de l'actualité. Alors, moi, la première news qui m'a marqué cette semaine, c'était celle de la Virginie occidentale, West Virginia, comme disent les Américains, l'État américain dans lequel un nouveau pilote va être lancé pour permettre à certains électeurs de voter pour les primaires des prochaines élections législatives, il me semble, de manière distante, en utilisant une application reliée à la blockchain. Alors, les gros titres, comme d'habitude sur ces sujets-là, n'en peuvent plus et disent que ça y est, on a un système de vote, un pilote de système de vote complet qui va utiliser de manière importante la blockchain. Or, c'est pas tout à fait ça qui se passe, parce que quand on se renseigne un petit peu, d'abord on se rend compte que ça va être très limité en termes de scope, donc ça va toucher les militaires déployés sur le terrain dans seulement deux comtés de cet État. Qui en compte 48, si mes souvenirs sont bons. Donc ça va vraiment être assez limité. Et pour information, le scope aujourd'hui, le nombre de votants qui vont être susceptibles d'utiliser ce système, c'est 60 personnes. C'est vraiment pas gigantesque. Hein.
Mais il faut savoir aussi que là, de nouveau, mais pour le moment, on met blockchain à toutes les sauces et que, comme dit le dicton, quand on a un marteau en main, tout ressemble à un clou. Quand on a une blockchain en main, tout ressemble à un problème où on veut mettre de la blockchain. Et alors, pour les élections, comme ce sont quand même des élections centralisées, où finalement, il y a quelqu'un qui va compter les voix, qui va élire une personne, le principe d'une blockchain décentralisée est relativement peu utile. C'est pas inutile, attention, mais c'est assez peu utile. Et le problème du vote électronique, en fait, est un problème extrêmement difficile, parce qu'on veut garder le vote secret, mais en même temps, on veut être sûr que les résultats soient corrects. Donc, comment faire en sorte que votre vote individuel soit secret, mais que vous soyez sûr que le résultat soit bon. C'est un gros problème en cryptographie qui est super intéressant et sur lequel on travaille depuis des années sans utiliser la blockchain. Là où la blockchain peut aider, c'est justement de faire en sorte d'avoir une plateforme où on a la garantie qu'elle est décentralisée pour stocker les résultats et pour pouvoir les vérifier par après. Donc c'est quand même, dans le problème du vote électronique, la blockchain a quand même une utilité assez limitée si on pense aux élections classiques, comme c'est le cas ici. Donc, je pense qu'on est plus dans le buzzword, hein, clairement.
Voilà, c'est ça. C'est le risque souvent de ce genre de hype, c'est que on sort de la blockchain un petit peu à toutes les sauces. Et vous verrez beaucoup d'actualités qui couvrent ça. Et ça fera partie aussi de nos missions que de vous aider à décrypter un petit peu tout ça et décoder un petit peu l'information qui se trouve derrière.
Mais on peut rajouter que c'est quand même intéressant parce que ça peut permettre à de nouvelles formes de vote d'émerger.
C'est ça.
Et je pense que tu seras d'accord avec moi si je cite le projet Democracy.Earth, qui est un projet que je trouve magnifique, mais dont même actuellement la majorité de la plateforme n'est même pas sur la blockchain pour le
oui,
moment.
Tout à fait.
Mais l'idée même, le projet est très beau et mérite d'être suivi.
Exactement. Donc ça fait partie des projets qu'on vous invite à suivre. Alors ici, la technologie qui est utilisée, c'est pas celle de Democracy.Earth, malheureusement. C'est une technologie d'une société qui s'appelle VOATS. Je prononce volontairement un petit peu de travers pour faciliter la recherche. Je rappelle qu'au passage, tous les liens ici seront dans le post sur le blog sur proofofcast.com associé à cet épisode. Donc la startup en question est basée à Boston. Et alors, cette technologie est pas très transparente. En tout cas, j'ai cherché un petit peu sur le site web. On trouve pas grand chose. Il y a pas de white paper. Il y a pas de description technique détaillée de tout ce qu'ils font. Ce que j'ai trouvé, c'est ce qu'on appelle un block explorer, c'est-à-dire une interface qui permet de voir les blocs TikTok et de lire leur contenu jusqu'à un certain niveau. Et donc ça prouve que ça, a priori, c'est pas complètement fermé non plus, mais c'est assez difficile de savoir est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est comme type de blockchain, comment on s'en sert, comment on y accède. Donc je vous invite à vous à garder ça à l'œil et à surveiller ce genre d'aspect, et on verra effectivement dans quelle mesure ce sera utilisé et ce que ça apportera comme innovation sur le processus électoral.
Et ici, il faut le dire honnêtement, c'est qu'il y a de la volonté des politiques de foutre la blockchain un peu partout, et donc de vouloir faire des votes à la blockchain pour avoir l'air hype, pour avoir l'air moderne. Et donc, il y a un marché de sociétés qui s'engouffrent là-dedans, qui promettent des votes sur la blockchain. Certaines sont complètement opaques, d'autres sont assez transparentes, allant même jusqu'à utiliser la plateforme Ethereum. Mais aucune pour le moment. Je pense qu'on est plus dans le proof of work commercial, dans le proof of concept commercial, que dans la véritable révolution qu'on nous promet.
Voire parfois même dans le mensonger hanté, oui, comme oui. Ça a eu lieu il y a quelques semaines avec les news concernant la Sierra Leone,
oui,
où une société suisse qui s'appelait Agora avait prétendu, à force de communiqués de presse, avoir mis en place de la blockchain sur une élection nationale, et en fait. À y regarder de plus près, on s'est rendu compte qu'ils étaient nommés observateurs internationaux sur 250 bureaux de vote, c'est-à-dire 2% des bureaux de vote totaux, et qu'ils étaient juste là pour recompter les votes dans leur propre blockchain, et leurs résultats n'ont absolument pas été pris en compte par les autorités officielles de Sierra Leone. Donc voilà, méfiez-vous de ce genre de news, comme le disait très bien Plume, le marteau, le clou, tout ça. Donc méfiez-vous de ce genre de choses. Et là, en l'occurrence, c'est important aussi de préciser qu'on est dans un contexte d'élections américaines, et que aux États-Unis, des pratiques de ce qu'on appelle de voter suppression, c'est-à-dire de rendre le vote le plus difficile possible, sont absolument légales. Et donc vous avez des États qui imposent, par exemple, de se présenter avec une pièce d'identité dans des États où les gens en ont très peu. Les bureaux de vote sont ouverts dans des horaires pas possibles. Ils sont très rares, donc il faut faire la file pendant très longtemps. Donc voilà, c'est intéressant de les voir mettre autant d'énergie à permettre à des soldats déployés à l'étranger de voter, et de pas en mettre autant parfois sur leur population locale. Donc voilà, je pense qu'on va clôturer sur ce sujet-là pour avancer sur l'actualité. Et alors le prochain sujet, c'était la fin des pubs liées à la crypto.
Ouais, surtout à la fin des pubs liées aux ICO. Hein, mais du coup, c'est vrai que ça fait un gros paquet, ICO, crypto, machin. C'est devenu un peu le grand méchant loup. C'est vrai qu'il y a eu des arnaques, il y en a eu beaucoup. Hein, BitConnect, tout le monde.
Voilà, pour ceux qui ont entendu parler de ça.
Pour ceux qui connaissent, c'était un vrai scam, une vraie pyramide de Ponzi. C'est tout à fait assumé, dans le sens qu'il n'y avait rien derrière. Les gens achetaient des soi-disant crypto-monnaies et puis ils se sont fait. Mais gagner de l'argent s'ils arrivaient à convaincre d'autres gens de le rejoindre, donc vraiment pyramide de Ponzi. Mais donc, du coup, comme tout domaine, ben, quand il y a des arnaques, ben, alors là, du coup, le régulateur, aujourd'hui, les régulateurs qui sont Facebook, Twitter, s'emparent de tout et décident, oulala, on va protéger le petit internaute des vilains arnaqueurs, on va le protéger et on va tenter de filtrer tout ce qui ne nous plaît pas qui concerne la crypto.
Et alors là, en plus, ce qui est particulièrement marquant, c'est que c'est même pas le régulateur qui s'en mêle, ce sont des sociétés privées qui décident de leur propre chef de
c'est bien ce que je dis, c'est le régulateur, parce que aujourd'hui, mais Facebook, c'est le pays le plus important du monde.
Oui, donc, c'est vrai d'une certaine manière, mais effectivement. Et donc d'ailleurs, Facebook et Google avaient déjà pris ces décisions il y a quelques semaines de ça, et là maintenant Twitter se lance dans la même politique.
Et alors, et Medium qui fait déjà des erreurs. Alors, je sais pas si vous connaissez Liberapay. Si vous connaissez pas, c'est un chouette projet libre que moi j'aime beaucoup, parce que c'est un projet qui sert justement à soutenir des projets qu'on aime bien avec de l'argent toutes les semaines, des toutes petites sommes, des quelques centimes toutes les semaines. Donc c'est un projet de prix libre, et le projet lui-même est libre et ne se finance que par les dons. Et donc le projet a son blog sur Medium et s'est vu sans avertissement son blog censuré, certainement parce que il y avait un trait à l'argent, et donc il y a eu une sorte de fil qui a dit argent, donc crypto-monnaie, on sait pas trop quoi, ou peut-être parce qu'à un moment ça a parlé de Bitcoin dedans, mais alors que eux ne l'utilisent pas du tout. Tout s'est bien terminé, c'est-à-dire que au bout de 2 ou 3 jours, Medium a reconnu son erreur et a remis en place le blog de Liberapay. Mais ça prouve bien que on est vraiment dans la censure. Et que de nouveau, que quand on est sur une plateforme centralisée, on accepte les règles, même a posteriori. Donc voilà, ça c'est de nouveau une leçon qui reprend moi qui aime bien Medium sur l'aspect technique. Je poste aussi sur Medium et tout ça. C'est quand même la leçon à retenir que tout ce que vous ne gardez pas, vos données que vous ne gardez pas, vous les donnez à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il peut soit les supprimer, soit les revendre, soit faire les deux. Et là, de nouveau, ben... Là, le ICO, c'est devenu un peu le nouveau gros mot à la mode dans ces milieux-là, un peu comme il y a quelques années sur, je sais pas si c'est encore le cas sur Facebook où on censurait le moindre téton qui dépassait sur une photo.
C'est toujours le cas.
Maintenant, c'est la moindre remarque sur les crypto-monnaies, le moindre ICO, le moindre dira, mais j'investirais bien là-dedans. Oula, là, on rentre dans un domaine, tendu. Qui n'est pas tout à fait faux parce qu'une étude a montré que 80% des ICO étaient véritablement des scams, donc des arnaques. Alors 80% des ICO, ben oui, en fait c'est super facile vu que vous vous dites je vous promets des jetons, des tokens, vous me donnez de l'argent et on va faire un super projet. Et selon l'étude, il y a 80% des projets qui n'avaient soit même pas l'idée de remplir le projet, soit qui n'ont même pas été jusqu'à à faire le moindre chose, le moindre travail technique sur leur projet. Alors évidemment, ça c'est très dommage, mais il faut pas oublier que dans ces 80%, ça veut dire qu'il reste 20% de projets qui font des choses bien et que dans ces projets, il y a peut-être la prochaine pépite, le prochain Internet qui va jaillir.
Et qui ont besoin de visibilité et qui ont besoin d'attirer, que ce soit des investisseurs ou des participants. On parlait de Democracy.Earth tout à l'heure, qui est vraiment un projet magnifique, mais il y en a tout un tas d'autres. Il y a Aragon, il y a Status, il y a tout plein de projets qui ont une vraie valeur technique, qui ont déjà démontré de la valeur technique et qui du coup vont être placés dans le même sac que tout ça, sans aucune décision du public. Alors je fais remarquer au passage que on n'a pas vu ni Facebook ni Twitter ni d'autres plateformes avoir autant de scrupules à diffuser les fake news pendant les élections américaines. Alors à posteriori elles ont regretté, mais là maintenant quand elles essayent de mettre en place des mécanismes, elles sont beaucoup plus prudentes parce qu'il y a la liberté d'expression etc. Et donc au lieu d'interdire, en général ce qu'elles font c'est qu'elles signalent, c'est-à-dire que les posts douteux sont marqués et vous invitent à vous renseigner plus avant. Ils pourraient très bien faire la même chose aussi sur toutes ces pubs un petit peu douteuses, mais à la place, ils ont décidé d'interdire purement et simplement, et le filet est assez large, puisque je reprends le cas de MailChimp, qui a aussi rejoint le même mouvement. En ce qui les concerne, ils vont interdire toutes les pubs de ceux qui vendent, qui tradent, qui stockent ou qui promeuvent des crypto-monnaies d'une manière générale. Donc ça, assez large quand même.
C'est quand même assez large. Mais... on en profite du coup pour rappeler, c'est une règle d'or, mais on le rappellera jamais assez. Si vous voulez investir, la première règle, on investit que de l'argent qu'on peut perdre à 100%. Et la deuxième règle, c'est qu'on fait sa propre recherche. Et si j'ai un conseil à donner, pour tout ce qui est des crypto-monnaies, ces projets, ces ICO, n'investissez pas pour avoir un rendement parce que, vous voyez, il y a 80% qui sont des arnaques. Essayez de voir quel est le projet sérieux, qu'est-ce qu'il a déjà prouvé, et investissez parce que vous croyez réellement au projet. Comme ça, s'il se casse la gueule, vous n'aurez pas de regrets, vous aurez aidé, et au pire, ben voilà, vous aurez aidé, vous aurez perdu un peu d'argent. Mais surtout, n'investissez pas toutes les économies que vous avez trouvées sous le matelas de mémé dans ce projet qui vous promet des rendements fabuleux, parce que s'il y a une promesse de rendement, généralement, ça c'est déjà la première lumière rouge, c'est une arnaque.
Exactement. Et on le rappellera aussi très souvent, c'est un système, comme tout système décentralisé, vous disposez de nouveau en tant qu'utilisateur du plus grand pouvoir, mais comme le disait le sage dans Spider-Man, à grand pouvoir, grande responsabilité, et donc il vous revient à vous de vous renseigner, de vous éduquer, de comprendre comment ça marche. Vous pouvez pas compter ni sur une agence gouvernementale, ni sur un gouvernement, ni même sur une société privée pour vous protéger de ce genre de choses, en tout cas de manière avec discernement et raison, on va dire. Donc il vous revient la responsabilité de vous renseigner là-dessus et d'investir en toute connaissance de cause, dirons-nous.
Voilà, tout à fait. Et n'oubliez pas que l'État est lui-même son propre provider de scam avec ses bouts de papier et son système bancaire.
Voilà, tout à fait. Mais nous reviendrons...
Mais je m'égare.
Voilà, on s'égare. Alors, ce qui nous amène tout doucement, puisqu'on parlait justement de crypto-monnaies, à une de ces crypto-monnaies. Alors, je rappelle qu'au dernier comptage, j'ai vérifié hier, il y en avait 2000 sur CryptoCompare. Donc, il y en a un paquet, plus que Bitcoin, Ether et celle dont beaucoup parlent. Et il y en a une notamment qui est en train de faire un peu d'actualité, qui s'appelle Monero. Alors, Monero, c'est quoi? Monero, c'est une crypto-monnaie qui est donc alternative à Bitcoin. C'est une crypto-monnaie pure, c'est-à-dire que elle est principalement là pour servir de monnaie d'échange, au même titre que Bitcoin, par exemple. Elle a sa propre blockchain. blockchain. Et sa principale caractéristique, c'est qu'elle propose des transactions qui sont complètement intraçables, donc qui protègent la vie privée de ses utilisateurs, ce qui là pour le coup n'est pas le cas de Bitcoin, puisque toutes les transactions sur Bitcoin sont traçables.
Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a justement des attaques qui ont été démontrées cette semaine sur le fait qu'on pourrait éventuellement retracer quand même que l'anonymat sur Monero ne serait pas si anonyme que ça. Mais bon, là, j'avoue que je n'ai pas plongé dans les détails techniques, mais c'est quand même toujours intéressant à savoir.
Donc là, évidemment, les techniques qui sont utilisées ici sont dans ce genre de cas sont assez sophistiquées. Dans le cas de Monero, ils utilisent la technique dite des anneaux de signature. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques ici, mais ceux qui s'y intéressent pourront faire quelques recherches. Il existe d'autres alternatives comme Zcash, par exemple, qui elle utilise une technique mathématique encore autre. Okay. On appelle l'épreuve sans connaissance.
Et il y a aussi Dash.
Il y a aussi Dash, mais ils ont aussi la privacy dedans, la traçabilité.
Oui, Dash, c'est Dash, Monero, Zcash, ce sont les trois projets assez visibles qui ont pour objectif d'être rapide, de pouvoir faire des transactions rapides, efficaces, de petites sommes et complètement anonymes. Donc vraiment, Dash par exemple veut dire digital cash. Voilà,
Donc voilà, il y a un certain nombre de ces technologies-là. Et dans le cas de Monero, ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent aussi, comme Bitcoin et comme la plupart, la très grande majorité des crypto-monnaies, un algorithme de consensus. Donc on a parlé, Plume parlait tout à l'heure de ce fameux algorithme de consensus qui résout le problème des généraux byzantins. Et alors l'algorithme le plus répandu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de la preuve de travail. Hein, vous avez peut-être entendu parler du proof of work.
C'est le fameux proof of work qui justement pollue énormément parce qu'il faut faire tourner des ordinateurs pour essayer de trouver des solutions à un problème. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue académique, il y a certains académiques qui pensent que le proof of work serait la seule solution possible du problème des généraux byzantins. Et donc que toutes les alternatives qui pollueraient moins, proof of stake entre autres, et proof of space et tout ça, qui sont actuellement les hashgraphs, etc., qui sont en recherche. Alors c'est très bien, il faut faire des recherches, mais actuellement, académiquement, il n'y en a aucun qui a fait ses preuves. Mais on serait sur le point de faire une percée, de faire une preuve mathématique qu'en fait il ne pourrait pas fonctionner, que seul le proof of work pourrait fonctionner. Alors c'est vraiment la pointe de la recherche académique. Donc une des grandes leçons de la science, c'est que quand on pense avoir prouvé quelque chose, eh ben on se rend compte 10 ou 100 ans ou 500 ans plus tard qu'en fait c'était pas vrai. Mais donc c'est super intéressant. Donc mais à aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que la seule résolution du problème des généraux byzantins qui fonctionne, qui a été prouvée comme fonctionnelle, c'est le proof of work, le fameux proof of work qui pollue tellement et qui fait tourner les ordinateurs.
Voilà. Et donc le proof of work, qu'est-ce que ça fait? Enfin, un algorithme de consensus, qu'est-ce que ça fait concrètement? Eh ben ça, tout simplement, ça fait tourner la responsabilité qui consiste à ajouter des transactions dans le registre partagé par tout le monde. Dans un système centralisé, il y a un seul nœud qui s'occupe de ça, c'est votre banque, c'est un État, etc. Dans le cas d'un système décentralisé, cette responsabilité, elle tourne entre ce qu'on appelle les mineurs, c'est-à-dire des utilisateurs qui font tourner des algorithmes, enfin l'algorithme de consensus. Et en gros, dans le cas du proof of work, plus vous mettez une puissance de calcul importante pour participer à cet algorithme, et plus vous avez de chances de produire le prochain bloc. Et quand vous produisez un bloc, vous touchez une prime dans la crypto-monnaie qui est gérée sur le réseau. Je schématise, mais en gros, c'est ça l'idée.
Et donc, intuitivement, on comprend que tout le monde essaye de faire tourner son ordinateur le plus possible, et c'est là que ça vient, parce que simplement pour essayer de dépasser les autres, pour avoir plus de chance que les autres.
C'est ça qui
fait la décentralisation, c'est que finalement, personne n'arrive à battre les autres complètement, parce que chacun met autant d'énergie qu'il le peut.
Voilà. Et alors, ce qui se passe par contre, et déjà c'est le cas dans Bitcoin, c'est que l'algorithme de consensus de preuve de travail tel qu'il est implémenté dans Bitcoin, certains y ont vu un intérêt, notamment des fabricants d'électronique, y ont vu un intérêt et se sont mis à créer des puces électroniques qui implémentaient cet algorithme dans du matériel. C'est-à-dire, c'est plus seulement un logiciel qui peut tourner sur n'importe quel processeur, ce qu'on appelle CPU, donc le processeur qui alimente votre ordinateur, ou le GPU, c'est-à-dire le processeur graphique de votre carte graphique, mais qui peut être aussi implémenté sur une puce dédiée qui ne fait que ça, qui le fait très vite, qui le fait beaucoup plus vite que du logiciel. Et ça, c'est ce qu'on appelle un ASIC, un Application Specific Integrated Circuit. Et il y a un certain nombre de constructeurs, enfin très peu de constructeurs malheureusement, notamment la société Bitmain, qui produit ce genre de puce dédiée pour Bitcoin notamment. Et donc aujourd'hui, le fait est que comme c'est possible de miner miner du Bitcoin avec des ASICs, la plupart des mineurs le font parce que ça va beaucoup plus rapidement et que du coup ils ont une puissance de calcul bien supérieure à celle du réseau.
Parce que au lieu d'avoir un processeur qui est générique, qui doit faire tourner un operating system sur lequel on fait tourner un programme avec une interface et tout ça, et tout ça, on a vraiment une puce qui ne fait que ça. Et donc, pour la même puissance consommée, un ASIC va être 1000 ou 10 000 fois plus performant qu'un ordinateur. Du coup, ben forcément, entre acheter une puce ASIC à quelques centaines de dollars ou acheter 1000 ordinateurs, ben le calcul est vite fait. Et donc, c'est pour ça que les ASIC prennent, dans tout ce qui est mining, dans le proof of work, les ASIC prennent complètement le dessus sur les ordinateurs.
Et là où ça pose un problème conceptuel par rapport aux crypto-monnaies, c'est que du coup, ceux qui ont le plus facilement accès à ces ASICs le moins cher possible, et ben prennent un avantage considérable sur le reste du réseau. Donc déjà, il y a un premier niveau de centralisation qui se fait à ce niveau-là, puisque très généralement, ces ASICs sont fabriqués en Chine, donc ça avantage plutôt les mineurs chinois. Et en plus de ça, il y a une ou deux sociétés qui fabriquent ces ASICs, et donc qui sont autant de points de contrôle facilités pour un gouvernement qui déciderait, par exemple, de leur imposer de rajouter un kill switch là-dedans ou un moyen de désactiver certains mineurs, par exemple. Donc, on a vraiment un gros problème sur Bitcoin lié à ce phénomène des ASICs, ce qui explique d'ailleurs que certaines crypto-monnaies ont, dès le début, essayé de mettre en place des algorithmes de consensus qui ne pouvaient pas être implémentés de manière matérielle, ce qu'on appelle ASICs resistant. C'est le cas, par exemple, de l'Ether, qui ne peut pas être miné avec du matériel, tout simplement parce qu'il consomme trop de mémoire cache. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et dans le cas de Monero, comme c'est dérivé de Bitcoin, l'algorithme de preuve de travail, à la base, n'est pas ASICS resistant. Donc il est susceptible d'être implémenté sur du matériel. Jusqu'à maintenant, ça n'était pas le cas parce que la monnaie était trop peu intéressante face au Bitcoin, mais il se fait qu'elle gagne de plus en plus en popularité et que du coup, la société principale qui fait des ASICs, à savoir Bitmain, a promis de développer, de lancer très prochainement, courant du mois de mai normalement, le premier ASIC qui sera adapté à l'algorithme de consensus de Monero qui s'appelle Kryptonite, et ils ont prévu de lancer ça. Alors évidemment, l'équipe qui se trouve derrière Monero, la communauté derrière Monero n'est pas super joyeuse à cette idée, puisqu'ils n'ont pas envie que le réseau Monero souffre des mêmes problèmes de centralisation que Bitcoin, et donc ils ont déjà annoncé qu'ils vont très prochainement changer les règles de fonctionnement de l'algorithme de consensus. Ils vont normalement, il y a un fork, c'est-à-dire une modification des règles du réseau qui devrait être lancé le 6 avril, c'est-à-dire un mois avant la release de ces nouveaux ASICs, et l'objectif de ce fork, c'est tout simplement de rendre les ASICs complètement inopérants et donc de rendre l'investissement qui, dans ce cas-là, est assez conséquent. Le prix annoncé, le prix en prévente de ces ASICs Monero, il est de $12 000 aujourd'hui. Donc c'est quand même un investissement assez conséquent. Et si vous savez qu'il y a un fort risque que cet investissement ne soit pas rentable parce qu'à un moment donné, l'ASICs va juste plus fonctionner, et bien évidemment, ça décourage l'achat et donc la production derrière de ce genre d'ASICs. Donc ils ont déjà prévu ce premier fork le 6 avril et ils ont déjà annoncé que si jamais les constructeurs s'adapter à ce fork, de toute façon ils allaient en faire un tous les 6 mois s'il le fallait pour vraiment décourager ce genre d'initiative. Donc affaire à suivre, on va voir si Monero reste décentralisé.
Il faut dire que Monero est la crypto-monnaie la plus utilisée pour les mineurs dans les pages web, les mineurs en JavaScript. Donc quand vous allez sur une page web de temps en temps, alors soit c'est dans certains rares cas c'est annoncé, c'est pour remplacer la publicité, dans d'autres cas c'est complètement invisible, votre ordinateur va commencer à chauffer et tout ça, la page web va consommer toutes les ressources, tout simplement parce que dans la page web, il y a un mineur Monero et donc en gros, la page web utilise votre électricité et ralentit votre ordinateur afin de générer de l'argent, les Monero. Et donc, comme mais c'est un des use cases les plus importants de Monero et qui peut être tout à fait légitime dans certains cas, hein, si vous voulez récompenser, si c'est clairement dit, pendant que je regarde une vidéo, j'autorise l'ordinateur à tourner pour payer la vidéo. Si c'est le cas, donc c'est un use case très important pour Monero. Mais du coup, effectivement, si on peut avoir des ASIC qui remplace 10 000 ordinateurs ou 1 000 ordinateurs, ce use case ne sera plus intéressant.
Donc affaire à suivre, on va voir si ça porte ses fruits et si Bitmain est finalement découragé de vendre son ASIC, on verra. À suivre dans les actualités des prochains épisodes. On arrive à un autre sujet qui est aussi assez intéressant pour le futur des blockchains, à savoir les Lightning Network.
Tout à fait. Alors, ici, je mets en lien un thread sur Twitter de Eric Lombroso, qui est un des contributeurs de Bitcoin, qui admet, en fait, tout simplement que, ouais, mais on s'est planté en vendant Bitcoin original comme une manière de faire des transactions simples et faciles entre tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le réseau Bitcoin prend de l'importance, comme je l'ai dit, chaque transaction doit être validée, doit être acceptée par tout le monde pour arriver dans la blockchain. Il y a un consensus général sur chaque transaction. Et ça, on se rend vite compte que ça ne scale pas. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des millions de transactions, tout le monde ne peut pas accepter toutes les transactions du monde. Et donc, le réseau Bitcoin est devenu très lent. D'ailleurs, en décembre, il y a eu des gros problèmes. Les transactions sont devenues de plus en plus chères pour passer, parce que les mineurs ne prenaient que celles où il y avait des fees importants. C'est d'ailleurs à la base une des critiques qui a fait que Bitcoin Cash est apparu. Il disait mais nous on veut un réseau Bitcoin performant, donc on va permettre de mettre plus de transactions à la fois. Mais pour beaucoup, la solution Bitcoin Cash n'en est pas vraiment une. Et Eric Lombroso en fait reconnaît, c'était une erreur de vendre ça. C'est pour ça que depuis quelques années, les développeurs Bitcoin travaillent sur le Lightning Network, qui est une sorte de surcouche à Bitcoin, et plutôt que d'avoir toutes les transactions qui viennent dans la blockchain, le Lightning Network, ça va être plutôt comme un état temporaire qui va se mettre entre plusieurs participants, on va l'ouvrir, on va mettre des bitcoins dedans, ça va se faire automatiquement, mais donc je paye machin, et puis machin paye un autre, l'autre me paye, et au final, tout ça tourne un peu en boucle, et à un moment, quand on veut, on ferme un tunnel du Lightning Network, et seule la transaction résultant, donc finalement l'état final de toutes nos transactions est transmis à la blockchain. Ça permet pour toutes les micro-transactions de réduire énormément les transactions, surtout que le Lightning Network permet par exemple de payer quelqu'un en passant par d'autres. Donc si justement quelqu'un avait un contact avec un autre et que moi je veux payer quelqu'un avec qui je n'ai pas de contact, l'argent va suivre un réseau. C'est un peu compliqué comme ça, mais le gros truc à retenir, c'est que c'est une surcouche qui permet de simplifier le nœud de Bitcoin, qui sera pour les grosses transactions, et de permettre des transactions super rapides, super faciles, mais qui vont venir rejoindre la blockchain plus tard en s'additionnant en quelque sorte.
Et donc un équivalent pour illustrer un petit peu ça, c'est si on ramène ça dans le système traditionnel, le système bancaire, c'est que quand vous faites un virement d'une banque vers une autre, le virement il part pas directement de la banque vers l'autre, il va d'abord tourner en interne, donc les virements à l'intérieur de la banque vont être processés directement, mais ensuite il va y avoir un mécanisme de compensation qui va se faire généralement une fois par jour, et qui va régulariser les comptes, mais juste dire, si j'additionne tout ce que je te dois et que tu additionnes tout ce que tu me dois et qu'on fait la différence, on équilibre les comptes. C'est un peu ce qui se passe sur les Lightning Network, mais de manière complètement décentralisée et à l'échelle de la blockchain, c'est-à-dire à l'échelle globale.
Voilà, tout à fait. Ou si vous avez déjà utilisé des applications qui permettent de tenir les comptes entre amis pour ne pas s'échanger de l'argent quand on part en vacances, par exemple, avec une bande de potes, c'est exactement ça. C'est juste à la fin des vacances, on prend le total de qui doit quoi à qui. Ici, on est exactement dans le même principe. Une analogie intéressante, donc Eric Lombroso lui parle du temps qu'il a fallu justement quand on a eu les centrales électriques et les ampoules, mais avant de faire un réseau de distribution électrique efficace. Une autre analogie, c'est si vous avez déjà vu une conférence de Mathieu Jamard, il montre les images de comment était le réseau téléphonique il y a une centaine d'années, où en fait, en gros, il fallait un fil entre chaque personne avec qui on voulait communiquer. Et donc, il y a dans sa conférence une photo fameuse d'une tour téléphonique à Stockholm qui est noire de fils qui arrivent de toutes les maisons. Et donc, toutes les maisons envoient leurs fils et envoient d'autres fils et ont plusieurs fils même pour pouvoir communiquer les unes avec les autres. Et donc, le téléphone, c'était génial, mais c'était pas du tout efficace finalement quand il y a beaucoup de gens qui ont rejoint le réseau, et donc on a dû avoir des centrales téléphoniques, et petit à petit tout ça s'est automatisé pour avoir le téléphone qu'on connaît aujourd'hui, qui est quand même vachement efficace, qui est quand même, on saurait plus vivre sans. C'est exactement ça que vit Bitcoin, et Eric Lombroso prend l'analogie d'une fourmi. Quand on a construit une fourmi, si vous dites vous voulez une fourmi 1000 fois plus grande, elle s'écroulerait sur son propre poids. Voilà. Il faut un nouveau design. Donc, il faut changer le design de la fourmi pour faire un éléphant. Et ben, c'est exactement ça. Et c'est, ça, c'est la preuve que le projet Bitcoin avance. C'est extrêmement intéressant. Et donc, c'est aussi une bonne leçon de dire, oui, mais c'est vrai. Là où on s'est gouré, c'est en disant, c'est génial, ça va résoudre tous les problèmes parce qu'on a une architecture qui va pouvoir toujours être un réseau d'échanges facile et rapide. Et du coup, il met en garde contre tous les nouvelles crypto-monnaies qui, elles, promettent, oui, mais nous, Bitcoin est lent, nous, on sera toujours rapide. Alors que Bitcoin était super rapide au début. C'est juste qu'il s'est écroulé sous son propre poids. Et donc, toutes les nouvelles crypto-monnaies qui promettent ça sans avoir l'expérience de ce que c'est la montée en charge, ben, c'est un peu du vent. Et il dit, c'est dommage parce que les nouvelles crypto-monnaies qui promettent d'améliorer ça, de réinventer la roue, elles vont lever 50 millions dans une ICO. Mais pour le Lightning Network, ben, finalement, il y avait personne.
Voilà.
Donc, alors que c'est finalement peut-être une des pièces maîtresse de l'infrastructure.
Et une des pistes les plus prometteuses aussi, parce que comme tu dis, ils ont l'expérience de l'existant. Pour information, ce Lightning Network, il est en train d'être mis en place effectivement sur Bitcoin, qui est un petit peu le pionnier en la matière, mais le concept est applicable à peu près n'importe quelle blockchain, ouais. Et donc je crois que Litecoin est aussi en passe de le mettre en place. Ethereum a aussi un projet qui travaille dessus, sur ce qu'on appelle les State Channels, c'est un autre nom de ce truc-là.
Ouais.
Et concrètement, là où c'est particulièrement intéressant, et là on va pas rentrer dans ces détails là, mais c'est que en plus c'est Lightning Network, en plus d'alléger le réseau et de le rendre beaucoup plus véloce, ils ouvrent tout un tas de cas possibles. Et par exemple, ça permettrait derrière d'implémenter ce qu'on appelle les atomic swaps, c'est-à-dire un mécanisme qui va permettre d'échanger directement des crypto-monnaies entre différentes blockchains.
Tu m'ôtes les mots de la bouche, voilà. Parce que j'allais donner cet exemple justement d'atomic swap entre Litecoin et Bitcoin, où en gros on peut payer en Bitcoin et la personne en face reçoit des Litecoin.
C'est juste le monde moderne est incroyable.
C'est dingue.
Voilà, donc on va
mais
clôturer.
Mais on s'égare.
Voilà, on va clôturer ici le sujet sur les Lightning Network. Moi, je voulais juste parler un petit peu de ce qui s'est passé il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant, qui a un petit peu animé et fait peur à beaucoup dans la communauté des blockchains et des crypto-monnaies d'une manière générale. C'était le G20. Alors pourquoi le G20 cette fois-ci a fait un petit peu plus peur? C'est parce que un des sujets à l'agenda du G20, c'était justement la régulation des crypto-monnaies et des blockchains. Alors pour eux, c'est un petit peu synonyme pour l'instant parce qu'ils ont du mal à voir plus loin que les crypto-monnaies. Mais toujours est-il que certains pays, comme le Japon par exemple, ou la France, ce qu'on va discuter un petit peu aujourd'hui, ont amené ce sujet, l'ont mis en avant pour essayer de pousser un consensus justement autour de la régulation internationale concernant les crypto-monnaies et derrière ça, les ICO. Et notamment Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie et des finances de la France, qui a défendu sa position lors du G20, donc le 19 mars à Buenos Aires, et qui a publié une petite tribune qu'on vous mettra en lien aussi évidemment sur le blog, qui a publié sa tribune sur le site Numérama, où il explique un petit peu la position française et l'approche qui est la leur. Alors vous remarquerez dans la tribune que c'est qu'il parle beaucoup justement de fintech, donc de l'aspect financier des choses. Or Plume l'a très bien illustré tout à l'heure en parlant de la portée conceptuelle de la blockchain. Ça va bien au-delà des crypto-monnaies et de la finance. Moi, j'aurais même tendance à dire que la finance, en tout cas la finance traditionnelle, n'est même pas le meilleur contexte dans lequel la blockchain peut se déployer, parce que justement il y a beaucoup de résistance et c'est un marché qui compte sur l'intermédiation et sur la centralisation. Donc à voir si à l'avenir ce sera le marché le plus prometteur, mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. Et alors ce que propose Bruno Le Maire, c'est que la France se place en première position dans le classement des pays où c'est génial de faire de la crypto, où c'est génial pour des entreprises d'innover dans le secteur et tout ça. Et évidemment, la démarche qu'elle a derrière, c'est d'abord une démarche de dire oui, il y a quand même pas mal d'arnaques. On parlait tout à l'heure des arnaques sur les ICO, et il faut protéger les tout petits épargnants fragiles et pas très bien éduqués. Plutôt que de chercher à les éduquer, on va réguler. Alors ça, c'est le fantasme. Je dirais même c'est la réaction naïve et primaire de la plupart de ces institutions centralisées. Et quelle plus belle institution centralisée que l'État-nation lui-même, que de dire on va réguler quelque chose qui vient d'apparaître. Le problème avec la blockchain, c'est que contrairement à d'autres choses qu'ils ont pu réguler par le passé, ici ils se retrouvent avec une espèce d'incompatibilité conceptuelle, dans la mesure où c'est très difficile, voire impossible, de complètement réguler un système décentralisé, puisque qui dit régulation dit mécanisme d'enforcement, je ne sais pas comment dire en français, de mise en œuvre de la loi, et donc pour la faire respecter, il faut des tribunaux, il faut de la police, il faut une institution qui quelque part punit les contrevenants. Or, sur une blockchain, ça n'est tout simplement pas possible. Et la plus belle preuve de ça, de l'inutilité de ce genre de mécanisme, c'est le fait que Bitcoin, justement, fonctionne depuis 10 ans, voire même plus. À peu près 10 ans. 2009, janvier 2009, donc ça va faire 10 ans en janvier 2019. Mais il fonctionne depuis tout ce temps, sans aucun organe de contrôle, sans système de régulation quelconque, et uniquement avec ce qu'on appelle des incentives, c'est-à-dire des mécanismes d'encouragement qui sont implémentés par du code. Donc c'est une autre façon de penser le contrôle, c'est une autre façon de penser toute la logique qu'il y a autour de ça, et malheureusement les États pensent d'abord en termes de régulation parce que c'est leur réponse classique.
Quoi. Et ça c'est le problème des politiques qui voient un buzzword et qui sont tout contents et qui pensent emploi, 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 et réélection, réélection, mais qui sont des fois tombent de haut quand on leur apprend les conséquences. Donc par exemple, on tombe encore dans le débat, et je l'ai encore eu à Bruxelles il y a quelques semaines dans un colloque, où de nouveau la représentante c'était une juriste, m'a dit oui, mais il faut quand même, la crypto c'est bien, l'État est pour la protection de la vie privée, mais il faut que l'État puisse quand même accéder aux communications cryptées. Alors là, tous les cryptologues expliquent que c'est pas possible. Alors soit tout le monde y a accès et c'est pas privé, soit c'est vraiment privé et l'État n'y a pas accès parce que l'État n'est qu'une personne comme les autres. Mais ça, quand on est l'État, c'est très difficile à comprendre.
Voilà, donc affaire à suivre. Encore une fois, il y a des propositions de régulation qui ont été faites, comme par exemple l'idée d'une liste blanche qui serait contrôlée par la FSMA, tiens, un organisme centralisé parmi tant d'autres, qui pourrait contrôler les ICO qui offrent certaines protections à leurs investisseurs. Bon, à voir si ça aura un réel impact sur les arnaques. Moi, personnellement, mon opinion par rapport à ça, c'est toujours la même, c'est que la régulation, c'est l'ancienne méthode, la nouvelle méthode, c'est l'éducation, c'est faire redescendre la connaissance à la marge, permettre à chacun de prendre des décisions en son âme et conscience, et pas de chercher à interdire ou contrôler, ouais, mais plutôt d'éduquer pour que chacun prenne les bonnes décisions.
Ouais. Et donc, faites vraiment attention, éduquez-vous, sachez que tout le monde veut gagner de l'argent, si c'était facile, ça se saurait, donc si on vous promet de l'argent, c'est que généralement vous donnez quelque chose en contrepartie, et donc voilà, ça c'est la grande leçon.
Et si vous voulez vous éduquer, écoutez le Proof of Cast, bien sûr.
Exactement. Et sinon, vous serez victime du darwinisme économique, comme voilà, on dit.
C'est cruel, c'est cynique, mais ça existe. Alors, à noter au passage qu'il y a quand même des États qui sortent un petit peu leur carte du jeu et leur, je ne sais même plus comment, quelle est l'expression consacrée, mais en tout cas qui sortent du lot, voilà.
Leur épingle du jeu.
Leur épingle du jeu, c'est exact, pas la carte du jeu. Je mélange les proverbes, moi, tout va bien. Non, il y a notamment la Suisse, et pas toute la Suisse, mais
ils sortent leur épingle de la botte de paille et la caravane passe.
C'est ça. Tout à fait, et les hippopotames seront bien gardés. Et donc la Suisse est notamment le canton de Zug, qu'on appelle la crypto-vallée, enfin c'est eux qui s'appellent comme ça, qui a une réglementation vraiment favorable à la blockchain, et qui a tout un tas d'efforts, non pas seulement pour réguler, mais aussi pour éduquer. Ils ont édité un certain nombre de guidelines déjà très intéressantes, dans lesquelles ils font la différence entre les différents types de crypto-assets, par exemple. Et donc je vous invite à vous renseigner sur la crypto-vallée. Il y a énormément d'initiatives intéressantes qui sortent de là. Et puis on parle souvent de l'Estonie, qui ont une vision en tout cas intéressant dans la matière.
Ils sont forts, ces Suisses, quand même.
Ils sont très très forts, ces Suisses. C'est incroyable. Donc, tout ça pour en arriver à un autre sujet, qui est le sujet des... Je ne vois plus rien dans la conduite. Enfin, donc voilà, je crois qu'on a fait le tour des actualités qu'on voulait couvrir aujourd'hui, en tout cas concernant les news qui nous intéressaient nous. Je vais juste rappeler, on va faire un petit peu de promotion pour les différents éléments qui se passent dans la communauté blockchain au sens large, mais dans lesquels nous on est concernés. Alors encore une fois, hein, dans les prochains épisodes, je vous invite à nous faire part des événements événements qui vous intéressent et que vous avez repérés et que vous voulez partager avec la communauté. Ici, je voulais en partager quelques-uns qui vont être tout prochainement. Donc, lundi prochain, il y a un... Donc, on enregistre ça, on est le vendredi 30 mars. Donc, le lundi 3 avril, si je ne me trompe pas, il y a un hors-série qui sort sur le podcast Les Technos, dans lequel on parle de l'achat de crypto-monnaies. Donc, on vous explique comment acheter et surtout mettre en sécurité vos crypto-monnaies. Donc, surveillez ça sur le blog, sur lestechno.be. Les liens, encore une fois, seront dans le blog. Il y a aussi un blockchain bootcamp qui va démarrer à Digitizer, qui est un incubateur à Bruxelles, et où on va faire un mélange de cours en ligne avec du coaching pour répondre à vos questions. Donc, là aussi, les liens seront dans le blog. Le 23 avril, il y a une conférence d'introduction à la blockchain qui va se dérouler au Beta Cowork. C'est votre serviteur qui aura l'honneur de faire une petite conférence sur le sujet, donc d'introduction à la blockchain. Et alors, du 26 au 28 avril prochain, il y a le gros événement, le gros hackathon Hack Belgium qui a lieu à Tour et Taxi de nouveau à Bruxelles, où il y aura notamment un track technologique sur la blockchain où on va expliquer, enfin on va aider des équipes à intégrer les plateformes décentralisées dans leur développement.
Et donc si vous avez besoin de speakers sur la blockchain, n'hésitez pas à nous contacter. Alors on trouvera toujours la personne la plus adaptée à vos besoins, parce qu'on peut parler de tout. Alors moi j'adore parler notamment de l'aspect sociétal de la blockchain et tous les changements que ça va impliquer. Seb lui, en plus Seb avec Chain Skills, il peut faire des super formations sur la programmation des smart contracts. Donc on peut aussi, on a tout un réseau. N'hésitez pas à nous contacter. On fait aussi des conférences gratuites quand c'est pour des conférences des organisations gratuites et bénévoles.
Voilà.
On fait des conférences payantes pour les institutions privées qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas à nous contacter.
D'ailleurs, j'enchaîne là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Twitter, sur Facebook, que sais-je?
Moi, c'est @plume, génériquement. Donc, oui. Alors, bien sûr, je suis sur Facebook. Vous cherchez plume.net. Mon blog, c'est plume.net. Ça, c'est quand même le point de ralliement.
Voilà.
Sur Twitter, c'est @plume. Et sur Mastodon, @plume@mammoth.fr. Parce que je préfère les plateformes décentralisées. Alors bien, je poste aussi sur les LinkedIn, Facebook et compagnie, mais je poste, c'est quasiment du post only, donc je suis quasiment pas présent sur ces plateformes là. Bon, Twitter, j'avais du mal à m'en détacher, même si centralisé, mais vraiment je pousse Mastodon. Si vous connaissez pas Mastodon, alors c'est pas du tout blockchain based, mais c'est vraiment un
décentralisé
à fond. Twitter décentralisé avec une belle dynamique. Il y avait Diaspora qui existe toujours, sur lequel je suis, qui est une alternative à Facebook en décentralisé, mais qui n'a jamais vraiment pris, alors que Mastodon
commence à décoller.
Ça décolle pas mal du tout. Ça fait un an, mais on fête les un an de Mastodon cette semaine, je pense, ou la semaine passée. Donc c'est un bel anniversaire, et donc n'hésitez pas, vous pouvez choisir votre instance Mastodon. Généralement la plupart n'ont pas de publicité, elles sont gratuites, il y a pas de censure, il y a des instances spécialisées. Il y en a une qui vient d'ouvrir cette semaine qui s'appelle Sweeter, qui est dédiée aux travailleurs du sexe, justement, où il y a pas de censure, où ils peuvent justement, c'est les gens qui travaillent dans ce milieu-là peuvent échanger à la fois leurs photos, leurs services, mais également discuter de leurs problématiques et tout ça de manière communautaire. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc c'est pas du tout blockchain, mais je vous invite vraiment à...
Si vous êtes... Ça fait partie des sujets aussi du podcast, de parler des plateformes décentralisées au sens large.
Et donc vous suivez plume@mammoth.fr et on fera un compte Mastodon pour le podcast. Alors il y a moyen, via un petit script qui a été développé par quelqu'un que je suis sur Mastodon, que je remercie ici, je sais plus son prénom, qui permet de synchroniser vos posts Twitter et vos posts Mastodon.
On mettra ça en place, bien sûr, parce que on va dans la décentralisation jusqu'au bout. En ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver évidemment sur Chainskills, donc @chainskills sur Twitter, ou @sarbogas pour me suivre personnellement sur Twitter. Je rappelle au passage que concernant ce podcast, on attend vos retours, on attend vos feedbacks sur le blog, donc qui sera accessible via proofofcast.com, mais qui dans un premier temps en tout cas renverra sur le blog de Chainskills. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur Facebook, toujours proofofcast, et n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires, des petites étoiles sur iTunes et autres plateformes de podcast. Ça va nous permettre de nous faire connaître et de diffuser toute cette belle connaissance autour des blockchains de façon la plus large possible.
Ouais, parce que effectivement, la plus belle des choses que vous pouvez faire pour nous, c'est partager. Alors, ici, c'est audio. Moi, je préfère l'écriture. Hein, donc, si vous aimez lire, je vous invite vraiment à vous pencher sur mon blog, parce que moi, c'est ce que je préfère. Mais l'audio aussi, c'est chouette, parce que ça permet de toucher justement des gens qui préfèrent ce médium-là.
Voilà, tout à fait.
Et donc, n'hésitez pas à partager autour de vous, à diffuser, à reprendre nos paroles. Et si vous nous oubliez de nous citer, ben c'est pas grave, parce que l'important, c'est que le message passe. C'est vraiment ça qu'on a envie de faire passer. Le message doit passer.
Voilà. Et donc, on se donne rendez-vous lundi dans 2 semaines, c'est-à-dire le 14 ou le 15 avril, si mes souvenirs sont bons, pour le prochain épisode, l'épisode 2 du Proof of Cast. On verra qui seront les chroniqueurs d'ici là. Je vous remercie d'avoir écouté le Proof of Cast numéro 1 jusqu'ici. À bientôt Ploum.
À bientôt Seb, et à bientôt tout le monde. C'était un plaisir de vous avoir, ceux qui sont encore éveillés, qui sont encore là, qui ne sont pas endormis au volant. Merci d'être restés jusqu'au bout, et on vous fait plein de bisous.
Au revoir et à bientôt.